إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Voilà, donc c'est la deuxième partie de ce que l'on doit savoir sur le discours de l'islam sur la vie après la mort. Alors j'ai expliqué la dernière fois que ça faisait partie des six piliers de la foi, hein, donc de vraiment de l'essentiel de ce à quoi le musulman doit croire pour être considéré comme un mu'min, un croyant. Et quand un musulman croit, hein, enfin, quand Dieu nous demande de croire, il nous demande de croire à 100%, pas à moitié. Hein, c'est pour ça qu'avec la notion de croire en quelque chose, il y a la notion de certitude dans cette foi-là. Donc, c'est ce qu'on appelle al-yaqin. Hein, dans le Coran, Dieu dit qu'Allah, donc que non, لو تعلمون علم اليقين, si seulement vous pouviez savoir, mais de façon sûre, et y croire dur comme fer. Cela veut dire que lorsqu'on parle de l'au-delà, se considérer comme un croyant, hein, en l'au-delà ou en les autres piliers de la foi, c'est être certain, hein, qu'il n'y a plus l'ombre d'un doute. Sinon, c'est que l'on n'a pas encore atteint ce degré de foi. Sinon, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Alors, ce yaqin, cette certitude, c'est une marque de la foi aussi. C'est une marque de la foi, mais elle influence également la foi. Elle influence la vie du croyant. Un croyant ne vit pas, ne pense pas, ne planifie pas comme quelqu'un qui est totalement coupé de Dieu. Le croyant est certain donc de l'existence d'un jugement après la mort. Il est certain que suivre les injonctions divines, ses conseils, etc., sont une source de bonheur ici et après. Et donc il est sûr qu'il se donne en suivant, pardon, en suivant les directives divines. Il est persuadé qu'il tient le bon bout, hein, qu'il se donne les meilleures chances pour assurer en même temps cette vie terrestre et son au-delà. Alors beaucoup de gens font des projets, etc., mais en pensant au cadre terrestre uniquement. Et la différence entre le croyant et le non-croyant, c'est que les projets dépassent le cadre terrestre pour celui qui croit que l'éternité, ce n'est pas pour maintenant, c'est après la mort. Donc le véritable avenir, on parle souvent d'avenir, oui je vais mettre de l'argent de côté pour mes enfants, oui je vais ouvrir un compte, ceci ou cela pour faire construire une maison, etc. Donc l'avenir, mais l'avenir du non-croyant s'arrête, hein, avec la mort. Hein, alors que l'avenir du croyant, le véritable avenir, se poursuit, hein, jusqu'à l'éternité. Et c'est celui-là, en fin de compte, qu'il vaut mieux t'assurer. Alors, c'est pour ça que les premiers musulmans, ceux qui étaient donc notre modèle, parce qu'ils étaient détenteurs de la vérité, hein, par rapport à aujourd'hui où quelquefois on se demande où est la vérité, ces premiers musulmans avaient tellement foi en la vie après la mort qu'ils la voyaient partout. Elle animait leur vie présente. Je vous donne un exemple. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, donc l'un de nos pieux prédécesseurs, quand il passait près de l'échoppe du forgeron, il ne pouvait pas s'empêcher de pleurer parce que le feu, l'odeur des flammes, etc., lui rappelait l'enfer. Omar ibn al-Khattab, donc le deuxième calife, deuxième successeur du prophète, cette semaine, il mettait sa main près des flammes comme ça, et puis se parlait à lui tout seul. Il disait Ibn al-Khattab, fils d'al-Khattab, hal laka ala hadha sabr, Est-ce que tu pourras endurer ça ? Hein ? Donc il se mettait comme ça à l'épreuve, parce que c'était tout le temps présent. Hein ? L'avenir, l'au-delà, avec l'enfer, le paradis, le jugement, et les clauses du jugement, sont des choses que l'on n'oublie pas si l'on y croit à fond. Il y a un beau texte que j'ai lu qui rapporte que Rabi'a al-Adawiyya, vous savez, cette sainte de l'islam, disait « Ma ra'aytu thaljan qat illa dhakartu tatayur as-suhuf » Je ne peux voir la neige tomber sans m'imaginer, sans me rappeler qu'un jour, les hommes verront leurs feuillets, leurs livres voler. Parce qu'on va le voir plus tard, hein, chacun saisira son livre au vol, et la manière dont il saisira son livre sera le signe de son devenir, la félicité ou le tourment, le paradis ou l'enfer, la vie heureuse ou le châtiment. Elle disait « Wa ma ra'aytu jaradan qat illa dhakartu al-hashra » Je ne peux voir une nuée de sauterelles, de criquets, et vous savez, quand les criquets arrivent dans certaines zones du monde, il dévaste tout, hein, les cultures, etc. Et elle dit, je ne peux voir donc une nuée de criquets sans me rappeler qu'un jour nous serons rassemblés ainsi, al-hashr, nombreux, hein, encore plus nombreux que ces criquets-là. Wa ma sami'tu adhanan qat illa dhakartu nida' al-munadi yawm al-qiyamah. Et je ne peux entendre l'appel, hein, nida, un appel quelconque, quelqu'un qui crie quelque chose, sans me rappeler qu'un jour nous serons appelés. Al-Munadi, il est dans le Coran, on ne sait pas qui c'est, mais bon, c'est un ange, héros comme ça, qui appellera à ceci ou à cela le jour du jugement. Alors, donc cette certitude est très importante, et on a dit que lorsqu'on aura fini, inshallah, ce dernier point des piliers de la foi, nous allons commencer à parler de l'éthique, de la morale musulmane. Et al-yaqin, c'est quelque chose qu'on enseigne, qui fait partie de ce domaine de l'akhlaq, de l'éthique musulmane. Alors comment, hein, celui qui n'a pas foi à 100% en la parole de Dieu, comment est-ce qu'il peut avoir cette certitude, ce yaqin? On enseigne ça dans les livres. On trouve ça dans les livres sur l'islam. Et juste quelques rappels, quelques points pour acquérir al-yaqin. D'abord, il faut un rapport sain au Coran. Le Coran, c'est la lettre de Dieu, le Coran, ou les messages antérieurs, hein, l'Injil, le Zabour, à chaque fois que Dieu rappelait à l'humanité à ce qu'il fallait rappeler, parce qu'ils avaient oublié, le message est en quelque sorte une lettre envoyée personnellement par Dieu à chacun de nous. Donc c'est comme ça qu'il faut appréhender le message divin. Donc il ne faut pas le lire seulement, il faut le lire pour s'en imprégner, il faut le lire pour l'appliquer, hein. Et il faut le lire pour bien s'en imprégner, pour bien en comprendre le sens. Il y a des conditions, hein, à cette lecture. Il faut choisir son moment. On ne va pas lire le Coran s'il y a un match de foot qui se prépare, ou voilà, si on doit préparer un gâteau et qu'on est pressé, sinon c'est annoncer le Coran, ça ne sert à rien. Donc il faut se donner toutes les dispositions nécessaires pour lire avec tous ses sens, hein, pour lire avec son cœur, pour vraiment boire, hein, le sens du Coran, s'en imprégner à fond. Il y a aussi des remparts à la compréhension saine du message divin. Et ça, c'est même Dieu qui le dit, hein, quand il dit « Nos fautes peuvent être un obstacle à la bonne compréhension de la parole de Dieu. Il faut être digne de comprendre cette parole. Et donc, il faut purifier son cœur avant de l'approcher, cette parole. Hein ? Et si on a le cœur rouillé, ron, comme Allah Azza wa Jalla le dit aussi dans le Coran, bal ron ala qulubihim, donc leur cœur s'est rouillé à force de faire des péchés, à force d'être mauvais. C'est un obstacle à la bonne compréhension du Coran. Donc l'israr al-dhanb, le fait de répéter, de perpétuer, de ne pas donner d'importance à ce qu'on appelle sara'ir. Vous voyez, des gens qui sont incapables de voler, qui sont incapables de tuer, qui sont incapables de... Je ne sais pas. Hein. Mais, voilà, qui mentent. Hein, ou qui sont orgueilleux, qui aiment bien se vanter, faire l'éloge d'eux-mêmes. Et pour eux, bon, c'est un trait de leur caractère. Ils ne voient pas ça comme un péché, quelque chose que Dieu n'aime pas. Qu'est-ce que c'est qu'un péché ? Une fois, un ami chrétien m'a posé la question, mais c'est quoi le péché ? J'ai dit, le péché, c'est comme l'a défini le prophète, hein, c'est ce que tu fais et que tu n'aimerais pas que les gens voient. Voilà ce que c'est que le péché. Donc tout ce qui est honteux, tout ce qui peut te diminuer aux yeux des gens, ben, c'est pas bien, c'est un péché. Voilà pourquoi les péchés, il y a des péchés universels et il y a des péchés propres à certaines cultures. Si dans ta culture c'est pas bien de faire ça, tu ne le fais pas. Voilà. Le fait de se dire « c'est pas grave » fait qu'on continue à faire ce péché-là et ça s'accumule. Et c'est ça qui voile finalement, en fin de compte, ce cœur qui devient imperméable à la vérité. Alors, pire encore que les péchés perpétrés, les actes, il y a les maladies du cœur, ce qu'on appelle... Oui, les maladies du cœur, les maux du cœur, l'orgueil, la haine, la jalousie. Ces maladies-là sont difficiles à extirper. Elles sont plus difficiles à corriger qu'un péché qu'on fait comme ça occasionnellement et puis dont on finit par se guérir, hein, par se corriger. Mais extirper l'orgueil, l'arracher... avec ses racines, c'est très difficile. Il faut un gros travail sur soi. La haine, le désir de vengeance, la jalousie. Et beaucoup de cœurs sont comme ça. Et beaucoup de cœurs qui sont ainsi ne peuvent pas comprendre réellement la parole de Dieu. Conclusion, ils croient comprendre la parole de Dieu, mais il la comprend de façon erronée. Par conséquent, ils agissent de façon erronée. Et quelquefois même, ils agissent en dépit du bon sens. Ils agissent violemment. Hein ? On les voit aujourd'hui, les musulmans qui font n'importe quoi, alors qu'ils croient comprendre le Coran. Ils se revendiquent musulmans, ils agissent au nom de musulmans, au nom de l'islam, ils font tout le contraire de ce que dicte le Coran et l'islam. Donc c'est là-dedans que ça ne va pas. Hein. Un islam qui est vidé de sa substance essentielle, salam, de la paix, le nom duquel il est dérivé, n'est plus islam. L'islam, Allah Azza wa Jal dit que le Coran s'adresse à ulul albab, aux gens doués de raison, doué d'intelligence. Donc celui qui fait quelque chose de déraisonnable fait tout sauf ce qu'on appelle islam. Puisque par définition, Dieu dans le Coran décrète que il est lié à la raison. Et le Coran, Dieu l'appelle dans Sourate Al-Furqan, un chapitre qui porte ce titre, Al-Furqan, le discernement, il appelle le Coran le discernement. C'est l'incarnation même de cette notion. Al-Furqan, c'est celui qui fait le discernement entre ce qu'il y a à faire et à ne pas faire, entre le bien et le mal. Surat Al-Furqan, elle commence comme ça. Tabarak alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Gloire à celui qui a fait descendre le discernement, autrement dit ce Coran, cette parole, sur son serviteur, sur Mohammed alayhi salam, afin qu'il soit avertisseur pour les mondes. Donc, prendre soin du cœur pour bien comprendre la parole coranique et pas seulement de l'apparence, des rituels, etc. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Hein. Si le prophète Azzassalam revenait aujourd'hui à la vie et voyait comment on agit au nom du message qu'il apportait de la part de Dieu, il s'arracherait les cheveux. Oui ou non ? Soyons sincères. Hein ? Alors on va donner plus d'importance aujourd'hui au chapelet, au hijab, à des formules incantatoires, que vraiment à la sincérité du cœur, à l'amour à avoir pour son prochain. Alors ça, désolé, mais c'est saper, c'est saboter la substance même de l'islam. C'est sa substance. Si on lui enlève ça, il reste quoi ? Ce que disent les savants, les vrais, pas les savants de Marseille, comme dit Coluche. Il reste la pelure, les épluchures, al-qushur. Donc aujourd'hui, vous avez des musulmans qui s'attachent aux qushur, aux épluchures, et qui ont laissé la chair succulente. Voilà. Et on voit ce que ça donne. Alhamdulillah, il y a beaucoup de khair dans notre communauté de foi aussi. Hein. Les gens comme vous qui viennent et avec sincérité cherchent à comprendre le cœur du message, on voit aussi les fruits qu'il donne. Hein. Je connais beaucoup d'entre vous et je sais comment vous vivez, comment vous êtes dans votre immeuble, dans votre quartier, dans l'école de vos enfants. Je sais quelle réputation, alhamdoulilah, vous avez. Donc, il y a toujours de l'espoir parce qu'il y en aura toujours qui comprendront vraiment ce message et s'attacheront à lui et pourront porter justement son aura. Hein. La foi du croyant musulman, elle ne peut pas se vivre dans le privé, dans la sphère privée. Cette foi, elle est amenée à rayonner à l'extérieur. Et une fois qu'il ne rayonne pas à l'extérieur, elle est privée de sa lumière et donc elle ne sert pas à grand chose. Je m'éclaire moi-même et je dois éclairer autour de moi. Hein? Comme dit le prophète al-Salam, al-muslimo kal-matar aynama waqa' nafa. Le musulman, il est le vrai, hein, celui qui a bien compris l'islam, il est comme la pluie bienfaisante. Partout où elle tombe, elle fait pousser de la verdure, des fruits. Elle est là, elle produit des bons fruits. Et c'est Jésus aussi, alayhi salam, qui a dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire un mauvais arbre ne donne pas de bons fruits. Inversement, un bon arbre donne de bons fruits. Et même avec ceux qui nous font du mal, que dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran ? فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Celui qui encaisse, voilà, les insultes, les moqueries, les... pas grave. Le Coran n'appelle pas à la vengeance. Le Coran est tout sauf un document belliqueux qui appelle à la guerre et qui appelle à... Allez, vengez-vous, on a dit ça, on vous a caricaturé, alors il faut faire ce... Non, le Coran dit... فَمَنْ عَفَى, celui qui pardonne, وَأَصْلَحَ, et répare. C'est bon, je passe l'éponge. Il trouvera son salaire auprès de Dieu. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Le hadith du prophète, il compare le croyant, le vrai, le sincère, celui qui a bien compris. Il le compare, il dit كَالنَّخْلَ. Il le compare au palmier. Il dit تُلَاوِحُهَا بِالْحِجَارِ وَتُسْقِطُ عَلَيْكَ الثِّمَارِ. Toi, tu lui lances des cailloux, quand tu jettes des pierres au palmier, il fait tomber sur toi ses fruits. Tu lui fais du mal, mais il te fait du bien. Le croyant, c'est comme ça qu'il doit être. Hein? Et alors qu'on dise de toi ce qu'on a envie de dire, dans les journaux, ou à la télé, ou dans la rue, ou dans... Pas grave. A'rid 'anil jahilin. Ils ne connaissent pas l'islam. Et donc, que dit le croyant le Coran à propos de les ignorants, de ce en quoi tu crois? Éloigne-toi d'eux. Laisse tomber. Où est-ce qu'il a appelé à se venger? Où? Il n'y a pas de vengeance. Le mot vengeance n'existe pas. Par contre, quand la dignité de l'homme est bafouée, là, on a le droit de se défendre. Il y a eu des batailles où le prophète sallam ne pouvait pas laisser pourrir une situation où qui allait faire des musulmans des gens exsangues. Pendant plusieurs années, on les a exilés, on les a privés de nourriture. Quand ils ont émigré, on a pillé leur maison. Hein? Etc., etc. Il faut relire la sira du prophète Azzalam pour voir toutes les persécutions qu'il y a eu au début de l'islam. Et c'est contre des persécutions qu'il fallait s'élever, uniquement parce que la vie était devenue difficile. Alors poursuivons sur le sujet de l'au-delà, je m'étends toujours un peu trop, rappelez-moi à l'ordre. Nous avons commencé à parler donc de la résurrection, c'est-à-dire de quand les hommes sortiront des tombes. Nous avons parlé de cette station sur Ard al-Mahshar, sur cette plateforme où il y aura une attente dans un cosmos qui n'existera plus. Mais où il y aura néanmoins un soleil. Alors un soleil, on ne sait pas comment il sera ce soleil, sauf ce que nous en a dit donc le prophète, notamment dans le hadith, où il dit qu'il sera très près des têtes et que les gens souffriront et baigneront dans leur sueur proportionnellement à leur faute qu'ils auront commise dans le monde terrestre. On a parlé aussi de l'enfer qui sera traîné, enchaîné, hein, par 70 000 anges, 70 000 chaînes tirées par 70 000 anges, etc. Un enfer rugissant, hoquetant, à la laine brûlante. Donc, la terreur sera à son comble, sauf pour les croyants, qui seront, dès le départ, accueillis par une garde d'honneur, avec des anges qui seront là pour les apaiser. Hein? Alors que quand Dieu parle de... des damnés, des futurs, enfin de ceux qui n'auront pas mérité le paradis, il dira qu'ils seront seuls, éparpillés, hein, alors que les croyants seront entourés. Alors nous sommes arrivés, je ne sais pas si on est arrivé à l'étape du jugement, le hissab. Il y a trois catégories de jugement. Il y a ceux qui iront au paradis sans être jugés. Donc, bireir et hisab, sans jugement. Nous avons, je ne sais pas si on a lu le hadith ou pas, le prophète Azzalam dit, yakhruju nasun min al-qubur ila abwab al-janna. Des gens sortiront de leur tombe et iront directement aux portes du paradis. Là, ils trouveront le gardien du paradis, qui s'appelle Ridwan, et il leur dira, où allez-vous? Ila ayn. Vous n'avez pas attendu sur la plateforme du jugement, vous n'avez pas reçu vos livres, vous n'avez pas été soumis à la pesée de vos actes, et ils diront, nous n'avons pas à subir ni les livres ni les balances, etc. N'as-tu pas lu le Coran? Nous sommes ceux desquels Dieu dit donc Dieu a dit à propos de nous les endurants, hein, ceux qui ont supporté auront leur salaire sans jugement. Et Redouane dit, comment était votre endurance, votre patience, votre résignation, hein, quand il le fallait. Le sabr, ce n'est pas une résignation passive, hein, c'est une résignation active. Et alors, il dit, Kunna idha juhila alayna halimna. Nous étions plein de mansuétude, plein de pardon, de bienveillance, le hilm, quand on nous traitait comme les ignorants le font. Vous savez, les gens qui ne réfléchissent pas et qui sont capables des pires comportements. Al-jahiloun, ceux qui ne savent pas, ceux qui agissent sous l'impulsion de leurs sentiments bestiaux, hein, animaux, hein, ceux qui n'utilisent pas leur cervelle, ceux qui n'adoptent pas donc la qualité, les qualités des croyants que cite Dieu dans ses messages. Donc, kunna idha durila alayna halimna. Autrement dit, quand on nous faisait du mal, eh ben, on ne répondait pas par le mal, c'est ça que ça veut dire. Ouais, et même encore, nous étions indulgents. C'est comme le prophète, azzalam, quand lors de la bataille de Uhud, il a été blessé, hein, il n'a pas demandé la vengeance alors qu'elle lui était proposée par l'ange Gabriel. Il a dit, c'est un peuple qui ne sait pas, ils ne savent pas, ce sont des gens qui ne savent pas. Et quand on lui a jeté des pierres à rappelez-moi le Taif, voilà, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, peut-être que dans leur descendance, hein, Djibril lui avait dit, si tu veux, Allah repliera sur eux Hadan il Jabal, ces deux montagnes. Et il a dit, peut-être que de leur descendance, il y aura des croyants. Donc, je ne vais pas leur jeter la pierre. Alors, ça, c'est le premier point. Wa idha usi'a ilayna sabarna. Et quand on nous faisait du mal, eh bien, on encaissait, sans répondre, sabarna. Nous endurions, nous faisions preuve de retenue. Un sabr, c'est endurer, mais c'est surtout ce sentiment de je me retiens. Wa idha u'tina shakarna. Et quand on nous donnait, à commencer par Dieu, on remerciait. Quand Dieu nous donne, on remercie. On n'est pas ingrat envers Dieu. Et quand les hommes nous donnent, on remercie. Wa idha aznabna astaghfarna. Et quand on péchait, quand on fautait, on demandait pardon. Et que dit Ridwan? Qala dkhulul jannata la khawfa alaykum wa la tahzanu. Donc entrez au paradis sans crainte ni tristesse. Voilà, donc qu'est-ce que ce hadith nous raconte? Qu'il y a des gens qui vont entrer au paradis, bien sûr, avec les conditions d'entrer au paradis, c'est-à-dire la foi. On ne peut pas entrer au paradis et être ingrat envers Dieu et ne pas reconnaître Dieu tel que il s'est décrit. Hein. Tout le reste, c'est de l'éthique, c'est du comportement, c'est des akhlaq, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est question ici de prière ou de jeûne ou... Non, ils faisaient cela. Hein. Et peut-être qu'ils faisaient le minimum, peut-être qu'ils n'ont jamais fait les prières de Tarawih, peut-être qu'ils n'ont jamais fait de jeûne surérogatoire, mais ils faisaient leur devoir envers Dieu. Et comme devoir, nous avons 5 prières par jour, nous avons un mois de jeûne par an, voilà. Mais ils étaient excellents dans la manière de respecter leur prochain. Et c'est ça qui leur a fait mériter cette entrée au paradis sans jugement. Et donc cette notion de comportement, d'éthique, de conduite est primordiale. Primordiale. Regardez ce que dit le prophète alayhi salam. Il dit « Inna ahsana an-nas islaman ahsanahum khuluqan ». Le meilleur musulman c'est qui? Celui qui fait 1000 raka'a par jour? Non, il n'a pas dit ça. Et celui qui jeûne tous les jours? Non, il n'a pas dit ça. Celui qui fait le pèlerinage tous les jours? Non. Ce ne sont que des outils de dévotion qui alimentent la conscience de Dieu. C'est tout. Mais après, Allah il attend que ça produise quelque chose en nous. Les fruits de ces outils-là, de cet entraînement par la prière, par les actes de dévotion, c'est l'excellence au niveau du comportement, le raffinement. Makarim al-akhlaq. Et le prophète dit, je n'ai été envoyé que pour ça. Je n'ai été envoyé que pour parfaire la conduite. Il ne dit pas la conduite, il dit les meilleures conduites. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une bonne conduite connue, un savoir-vivre connu, hein, comme étant bon. Et là, il y apporte une touche supplémentaire. Au tamim, je viens compléter, je viens apporter la touche finale, la dorure qui va raffiner définitivement l'enseignement qui a précédé. Et c'était la norme à l'époque du prophète Hazrat Selam. Et aujourd'hui, c'est devenu l'exception. Quand on trouve un musulman qui se comporte avec droiture, on n'en revient pas. Mais comment il fait dans une société pourrie comme la nôtre? Et oui, c'est devenu l'exception aujourd'hui. Alors que cela devrait être la norme. Voilà, à nous de nous retrousser les manches. Hein. Il ne tient qu'à chacun de nous de se réformer de façon à établir donc cette éthique merveilleuse dans notre façon d'être. Un autre hadith justement qui corrige ce que croient aujourd'hui les musulmans, que c'est parce qu'on est tout le temps à la mosquée ou parce que on porte une djellaba ou un hijab, oui, qu'on est. Non, il y a des habits du faux dévot. Hein. Regardez ce que dit le prophète. Inna al-mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Dit le croyant, le musulman, par son bon comportement, atteint le degré du sa'im, du jeûneur. Le jeûneur, ce n'est pas celui qui jeûne 30 jours. Celui qui a l'étiquette de jeûneur, c'est celui qui jeûne beaucoup par amour pour Dieu. Parce qu'il sait ce que lui apporte ce jeûne. On a déjà fait des cours sur le jeûne, vous vous souvenez? Le jeûne, c'est autre chose que de se priver de boire et de manger. Jeûner, c'est se mettre dans l'état des anges qui ne se nourrissent pas pour mieux hein, se verser hein, complètement, se consacrer complètement à l'adoration de Dieu. Donc, la'allakum tattaqun, c'est ce que dit Allah Azza wa Jal. Kutiba alaykum siyam kama kutiba. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés. Et ensuite il dit peut-être atteindriez-vous la piété. Donc il lie l'action de jeûner à quelque chose de spirituel. Ça a un effet intérieur de jeûner. Parce qu'il ne nous demande pas uniquement de jeûner. En jeûnant, qu'est-ce qu'on fait aussi? Qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qu'il est louable de faire pendant le mois de Ramadan? D'inviter les nécessiteux à notre table. C'est un acte social de charité, de partage. De quoi aussi? De tenir sa langue, attention, médisance. Hein, de dire sa'umul jawarih, de faire jeûner chacun de tes organes. Faire jeûner, c'est-à-dire l'empêcher. Le tenir, le maîtriser de façon à ce qu'il ne s'écarte pas du droit chemin. Faire le bien à fond et se retenir de faire ce qui déplaît à Dieu et aux hommes au maximum. Voilà, donc le prophète dit, l'akhlaq, le bon comportement, peut faire dépasser ce degré de bon jeûneur et de bon priant. Sa'im al-qa'im, de celui qui se lève la nuit pour prier. Hein, ce sont les vertueux, les très croyants qui se lèvent, qui aiment ce moment de solitude, ce moment où ils sont seuls avec Dieu, justement pour lui manifester son amour. Hein, les sages disaient, Dieu reconnaît les siens au cœur de la nuit. Oui, parce que le jour, quand les mosquées sont pleines, peut-être que les gens ils viennent prier pour qu'on dise d'eux qui sont de bons musulmans, qui fréquentent assidûment la mosquée. Mais la nuit, il n'y a personne qui te voit. Et la nuit, tu peux te laisser aller à tes lamentations, à tes supplications. Tu peux pleurer, tu peux gémir. Et ce n'est pas une honte de pleurer devant son Dieu, au contraire. Dieu élève celui qui a cette attitude. Et inversement, le prophète dit, Inna sharra an-nasi manzilatan 'inda Allahi yawm al-qiyamah, les pires des gens le jour du jugement, man yatrukhu an-nasu ittiqa al-sharri. Celui que les gens évitent parce qu'il est mauvais. Il n'est pas bon. Oh là là, non. Je change de trottoir parce que qu'est-ce qu'elle va encore me dire? T'as grossi, t'as maigri, pourquoi tu t'habilles comme ça? Il y a des gens qui ont une langue de vipère. Des gens qu'on n'aime pas rencontrer. Qu'est-ce qu'il va encore me raconter? Il faut que je me bouche les oreilles parce qu'il va me ramener tous les ragots du quartier. Il y a des gens comme ça qu'on n'aime pas. Il y a des voisins dont on a peur parce que, voilà, ils font du bruit, ils sont beaucoup, ils manifestent beaucoup d'incivilité et on ne peut même pas se permettre de leur dire « S'il vous plaît, baissez le son de votre télé ou arrêtez de crier après votre chien, votre enfant » parce qu'on a peur des représailles. Alors, ne soyons pas comme ça. Hein, vous savez que le voisin a un droit. Et on ne parle pas du voisin musulman. Le voisin, quel qu'il soit, ton frère humain, s'il est ton voisin, il a des droits. Tu as des devoirs envers lui. Je vais vous raconter une petite histoire pour vous dire les vrais musulmans, les premiers musulmans, tout ce qu'ils entendaient dire de la part de Dieu ou de la part du prophète, sallam, il l'appliquait, mais alors, je dirais pas avec ferveur, avec application et avec soin. Et ils avaient peur justement de ne pas bien l'appliquer. Ils avaient des scrupules, ce qu'on appelle le wara, le scrupule religieux, le scrupule. Un homme avait des rats, des souris dans sa maison, et on lui a dit, prends un chat. Et il a dit, oui, mais si je prends un chat, il va faire fuir les rats qui vont peut-être aller chez les voisins. Et ça aura été de ma faute. Donc je préfère les garder chez moi. Je ne veux pas être un mauvais voisin. Regardez à quel point ils poussaient leur wara, leur scrupule. Je ne veux pas être la cause du malheur des voisins. Donc, وَإِذَا أُسِيءَ إِلَيْنَا صَبَرْنَا. Et quand on nous fait du mal, nous faisons preuve de retenue, on ne se venge pas bêtement. Allah Azza wa Jal dit à propos de la colère, quand on est injuste, quand on se moque de nous, on peut être en colère, on a le droit. Mais on n'a pas le droit de faire et de dire n'importe quoi. Et se retenir de faire ou de dire n'importe quoi est une marque de foi et quelque chose qui n'échappera pas à Dieu, qui est compté comme une bonne action. Se retenir de faire le mal est une bonne action. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, ceux qui contiennent leur colère. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, ceux qui pardonnent aux gens. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, et Allah aime les bienfaisants. Voilà. C'est ça l'islam, mais pas autre chose que ça. Alors à propos de la gratitude, des marques de reconnaissance, ça aussi c'est important. وَإِذَا أُعْطِينَا شَكَرْنَا, quand on nous donne, nous remercions. Le mot merci, c'est la clé des cœurs. Vous savez quoi? Et on peut être fermé, hermétique à quelque chose. Il suffit qu'on vous dise merci, tu m'as apporté ceci et cela. C'est fini, j'oublie toute ma rancune, toute ma haine, tout. Voilà. Voilà, merci. Merci. Nous sommes un groupe d'Algériens qui voulons remercier, je tenais à le dire, la consule d'Algérie à Strasbourg. Vous savez pourquoi? Depuis que je suis en France, ça fait de nombreuses années maintenant, je n'ai jamais vu le consul en personne. Je n'ai jamais eu à le rencontrer, je n'ai jamais demandé d'audience, grâce à Dieu, il n'y a pas eu de problème majeur. Mais je ne l'ai jamais rencontré dans les couloirs. Le consul, il fallait demander une audience pour être reçu dans son bureau. Et là, avec les passeports biométriques, etc., Tout le monde s'est précipité au consulat et le dernier délai, c'était fin décembre. Donc, il y avait un travail phénoménal pour les employés du consulat. Eh bien, la consule a ôté ses talons hauts pour se mettre en ballerine pour pouvoir mieux courir de l'un à l'autre dans les couloirs. Et elle était là en train de calmer les bébés, en train de faire asseoir les vieilles personnes et les handicapés, en train de... Voilà. Et de remplir elle-même les papiers. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc cette modestie, cette mise à la portée du citoyen moyen est quelque chose d'admirable. Hein ? On reconnaît la grandeur d'un homme à la manière dont il traite les petites gens. N'est-ce pas ? Eh bien voilà, elle mérite qu'on lui dise merci. Donc nous avons décidé de lui faire envoyer un grand bouquet de fleurs avec une gentille lettre. Et il faut encourager les gens qui, surtout parce qu'ils deviennent rares, qui font le bien, qui sont gentils, hein, qui sont respectueux. Et nous n'y pensons pas suffisamment, et c'est un tort, parce que ça crée des liens très forts. Et ça commence juste quelquefois par « voilà, je te remercie ». Et bien sûr, le premier à remercier, c'est Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, et justement, ce qu'on appelle le kufr, c'est-à-dire la négation, qu'est-ce que c'est ? C'est pas juste la négation de Dieu en tant qu'être divin, c'est la négation de ses bienfaits. Il y en a qui vous disent, ah, mais moi j'ai travaillé dur pour acheter ma voiture, moi j'ai travaillé dur pour faire cela, donc c'est comme s'il s'octroyait le mérite, alors que le mérite revient avant tout à Dieu. C'est lui qui t'a ouvert la voie, qui t'a facilité la tâche pour que tu accèdes à ce que tu possèdes. Voici pourquoi le shukr est aussi une qualité du mu'min, du croyant, du musulman. Le shukr est le remerciement. Et que dit Dieu dans le Coran ? وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ. Donc Dieu a décrété. La in shakartum la azidannakum, que si vous remerciez, je vous donnerai encore plus. Donc regardez, c'est fou quand même. Vous connaissez quelqu'un d'aussi généreux que Dieu? C'est lui qui nous donne. Hein. Il suffit juste qu'on remercie et il nous donne encore plus. La azidannakum wa la in kafartum, mais si vous êtes ingrat, in adab ila shadid, si vous êtes ingrat, rappelez-vous que mon châtiment est douloureux. Pas parce que Dieu est méchant, parce que Dieu est juste. Il ne peut pas en être autrement. Sinon, comme j'ai expliqué la dernière fois, il ne serait pas crédible. Donc, il y a ceux qui subiront le jugement de façon aisée, un jugement facile, hisab yassir. Donc Dieu le dit dans ce verset 27, sourate al-Inshiqaq, la fracture. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, celui qui recevra son livre par sa main droite, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, il sera jugé d'un jugement facile. Donc il y a ceux qui n'auront pas de jugement du tout. Ceux qui auront un jugement, mais facile. Mais on comprend dans ce verset que ce jugement interviendra après la réception du livre de nos actes. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Donc il recevra son lit par sa main droite, signe qu'il fera partie des bienheureux. Il sera jugé par Dieu de façon facile et il retournera vers les siens heureux. Dans Sahih al-Bukhari, il y a donc ce hadith qui donne un complément d'information. C'est Ibn Omar qui rapporte ces propos du prophète, qui dit que le croyant s'approchera tout près de Dieu, hein, pour un entretien en tête-à-tête. Voilà comment se fera le jugement. Un entretien en tête-à-tête. فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ, Allah lui fera reconnaître ses fautes. Il commencera par les fautes qu'il aura. Et il lui dira, تَعْرِفُ ذَنْبَكَذَا, est-ce que tu reconnais tel péché ? Il nommera la faute Et le croyant dira, Arif, donc je reconnais. Il dira, il répétera, Arifu ya Rab. Il répétera, oui, je reconnais. Donc il ne discutera absolument pas ces péchés-là. Il les reconnaîtra en toute sincérité. Et donc Dieu dira, Satartuha fid dunya. Je les ai cachés, ces fautes-là, par amour pour toi sur la terre. Hein? Nous fautons en secret. Et si Dieu cache, hein, ne les divulgue pas, ne nous humilie pas en les révélant au grand jour, c'est un signe de son amour, c'est un signe de sa miséricorde, nous ne l'oublions jamais. Et aujourd'hui, donc dans la vie d'ici-bas, je t'ai couvert et aujourd'hui je te pardonne. Voilà. Un autre hadith explique comment ça se passe. Hein. C'est un ange qui va appeler les gens les uns après les autres, ou des anges. Il dira, où est un tel fils d'un tel? Donc la personne se présentera, que voulez-vous? Il lui dira, viens prendre ton salaire auprès de Dieu, le jaza. Et il exposera le protocole qui l'attend, le protocole de cet entretien, de ce jugement. Il lui dira, Dieu te parlera sans traducteur, tête à tête. Alors que, on va voir après, voilà, sera public, le jugement sera public. Il te fera lire tes péchés, les fera reconnaître, puis tes bonnes actions. Hein. Et enfin, donc, nous avons ceux qui subiront, que Dieu nous en préserve, hisaban asira, donc un jugement ardu, un jugement pénible, un jugement difficile. Difficile d'abord parce qu'il se fera devant tout le monde. Celui qui a trompé sa femme verra ce jour-là comment il l'a trompé, quel jour, dans quelles circonstances, les mensonges qu'il lui a racontés, etc. Hein, celui qui a volé, pareil. Voilà, celui qui a puisé dans la caisse de son patron, hein, il sera dénoncé ce jour-là. Alors, où est l'ashhad, donc devant témoins, publiquement. Et sur quoi jugera Dieu? La première chose, les premières questions porteront bien sûr sur le premier pilier de la foi, c'est-à-dire ce qui concerne Dieu et ses devoirs. Hukuk Allah, les droits de Dieu. Les droits de Dieu, c'est quoi? C'est qui est ton Dieu? Ton Dieu qui c'est? Il est comment? Dieu, c'est Allah. Il est unique. La sharika lah. C'est pour ça que la profession de foi du musulman, c'est Ashhadu. Je suis témoin. Allah ilaha illallah. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Hein? Wa anna Muhammadan Rasulullah. Ça, c'est la deuxième partie. Voilà. Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi. Dieu ne pardonne pas le péché de lui donner un associé. C'est-à-dire que même si on croit en Dieu, on ne doit pas, il n'est pas permis, la foi n'est pas acceptable si on lui donne des égaux, des associés. Mais en dehors de ça, donc ces péchés ne sont pas pardonnables, d'après ce verset, « Inna Allah la yurfaru an yushraka bihi » Et il pardonne ce qui est moindre, ce qui est en dessous de ça comme péché, à qui il veut. Et ensuite, il y aura le questionnement, l'examen des droits de l'homme, des droits du prochain. Et en premier... j'ai pas fini de parler de la question de Dieu. Après la foi en l'être divin, il y a le questionnement sur les devoirs divins. Et le premier devoir envers Dieu, c'est as-salate. C'est l'alimentation de la relation avec Dieu qui s'appelle la prière. Le mot prière ne veut pas dire prière en arabe. On traduit ça par prière, mais salate vient de sila. C'est le fil qui te lie à Dieu. C'est ton lien. Donc, quand on dit qu'on fait as-salate 5 fois par jour, ça veut dire qu'on se relie à Dieu 5 fois par jour. Donc nous serons questionnés sur la qualité de notre relation avec Dieu Et si ta relation avec Dieu est mauvaise, c'est parce que tu ne l'as pas alimenté comme il se doit. Car attention, il ne suffit pas de prier comme dit le prophète, comme on dit dans l'islam, faire une prière qui se limite à sa gestuelle et à répéter comme des perroquets. La prière, ça se passe dans le cœur. C'est-à-dire que nous devons être présents dans cette prière, la faire avec la bonne intention. Hein, ça doit être un moment privé de rencontre de Dieu. Voilà, c'est un moment privé où l'on rencontre Dieu. Et celui qui ne le fait pas dans ces conditions, c'est-à-dire celui qui le fait machinalement, ou même celui qui est faux, qui le fait uniquement pour avoir l'étiquette du dévot, du pratiquant, ben bien sûr, sa prière n'a pas de valeur. Et par conséquent, il sera jugé, hein, sévèrement sur la manière dont il a négligé sa prière. Et ensuite, donc, les droits humains et la première question. Première question sur les droits humains, qu'est-ce que c'est? Nous devons revoir le discours de l'adieu du prophète Azad Salam. Il a beaucoup insisté sur ça. Le respect de la vie. Le respect de la vie. Le respect des biens. Le respect de l'honneur. Ils sont sacrés. Sacrés. La sacralité. La sacralité de ces trois choses a été répétée tout au long du message et elle a été rappelée comme un testament spirituel par un messager qui nous aime et qui nous a rappelé l'essentiel, qui nous a résumé dans un discours certes long, mais il a repris les priorités. Relisez le discours de l'adieu, Hajjat al-Wada'. Khatbat Hajjat al-Wada'. Pourquoi? Parce que le prophète n'avait plus le temps et il ne pouvait plus résumer 23 ans de prêche en un moment, en quelques heures. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris l'essentiel, les points sur lesquels nous devons rester le plus ferme. Et parmi les droits humains, eh ben c'est ça, vous sont sacrés, hein, vous sont déclarés sacrés, la vie, donc le sang, les biens et l'honneur d'une personne. Nous ne devons atteindre personne, attenter, pardon, à personne, bien sûr pas en versant son sang, et dire qu'il y en a aujourd'hui qui versent le sang au nom de l'islam, mais quel sacrilège! Mais qu'ont-ils compris de l'islam? Au nom de l'islam! Alors que l'islam déclare cela sacré. Donc, le sang, les biens, on n'a pas le droit d'usurper les biens de qui que ce soit, de tromper quelqu'un, de le voler, de le... Voilà, l'amana, ça s'appelle l'amana. Tout ce qui n'est pas à toi est une amana. Amana, c'est-à-dire quelque chose à respecter en tant que tel. La rue est une amana, c'est pour ça qu'il y a un civisme dans l'éthique musulmane. Dans l'éthique musulmane, on nous apprend le droit de la rue. Haqq al-tariq. Et dans ce droit de la rue, il y a quoi? Le fait de ne pas crier dans les rues, de ne pas se rassembler dans les rues, parce que ça n'inspire pas confiance. Le fait d'enlever même, de nettoyer, d'écarter les obstacles, il y a un clou, une peau de banane, quand tu l'enlèves, c'est de la foi. C'est de la foi. Cet autre hadith du prophète qui dit, la foi est plusieurs... 70 et quelques shu'aba, branches, hein, et adnaha, donc le moindre geste de foi, c'est quoi? C'est d'écarter l'obstacle du chemin. Pas pour toi, mais pour toi et pour ceux qui viendront derrière toi. Voilà ce que c'est que l'islam. L'islam, c'est la vie. L'islam, c'est le respect de l'homme. L'islam, c'est le bon sens. L'islam, c'est le bien. L'islam, c'est... voilà. Et donc le respect de la vie, des biens, de l'honneur. Et c'est pour ça que le prophète Hassan Salem dit que celui qui n'a pas compris ça, qui n'a pas compris ça, qui s'est attaché uniquement aux rituels, aux outils, mais dont il n'a pas bénéficié des fruits, la prière, le jeûne, les actes d'adoration sont des moyens de te rendre meilleur. Ce sont des moyens pour te bonifier. Et si tu ne t'es pas bonifié, c'est que tu n'as pas employé les outils comme il fallait. Ok ? Si tu fais une prière superficielle ou un jeûne qui consiste uniquement à t'empêcher de boire et de manger, mais que tu continues à médire et à tricher et à... Voilà, ton jeûne ne sert à rien. Si tu passes ton temps à la mosquée mais qu'au marché tu vends en trompant tes clients, tu n'as rien compris de la prière. Et tu ne bénéficieras pas de ses fruits. Et alors voilà, le prophète dit Atadruna Manel Mofles, il dit à ses compagnons, savez-vous qui sera en faillite? Qui sera le perdant, le juge? Qui est-ce qu'on appelle pour vous celui qui a fait faillite, El Mofles? Les compagnons disent, nous, ce qu'on appelle Mofles, c'est celui qui a tout perdu. Hein? Qui a perdu tout bien et tout argent. Le prophète les reprend. Celui qui fait faillite de ma communauté de foi, le musulman, donc viendra le jour du jugement, il viendra le jour du jugement avec des prières et avec des jeûnes. Ah oui, ça. Hein? Wazaka. Prière, jeûne et l'aumône légale. Mais il aura insulté un tel. Et sali l'honneur de tel autre. Et usurpé l'argent de tel autre encore. Et verser le sang de tel autre. Et frappé tel autre. Alors, on prendra de ses... Il a des jeûnes, il a beaucoup de hasanat, il a des actes rituels, il s'en est bien acquitté. Mais on prendra de ses bonnes actions et on les distribuera à tous ceux qu'il aura lésés. Tenez, en réparation. Dieu va réparer. Et quand il lui restera plus rien, même s'il n'a pas fini de rembourser ses dettes de mal, فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَتُهُ قَبْلَ أَنْ avant qu'il honore ses dettes, يَقْضِمَ عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَيَاهُمْ donc on prendra de leurs péchés à eux et on les mettra à l'actif de cette personne-là. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ Et ensuite, bien sûr, ça le précipitera en enfer. Donc, il y a ensuite les livres dont on a parlé tout à l'heure, un sohuf, et on a dit que, on l'a dit tout à l'heure, ils voleront, alors on ne sait pas comment, on appelle ça tatayur sohuf, et l'homme l'attrapera au vol. Quand vous attrapez quelque chose, vous ne réfléchissez pas, n'est-ce pas? Vous prenez par la main que... Et Allah Azza wa Jal nous décrit une scène très vivante du jugement dans surat Al-Haq. Donc, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ celui qui réceptionnera, qui attrapera son livre avec sa droite, sa main droite, فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ il sera tout heureux, il dira, venez lire mon livre. Hein, comme un enfant qui a eu une bonne note. Ouais, venez, j'ai eu 20. Oui, j'espérais recevoir mon salaire. Hein? Ceux qui font le bien aujourd'hui, il y a deux façons de faire le bien. Il y a celui qui le fait pour les hommes, pour sa réputation, pour la vie, pour son propre bonheur, parce que, bien sûr, ça fait du bien que de répandre le bien autour de soi. Hein? Mais il y en a qui ne sortent pas de ce cadre-là. Seul le croyant va faire le bien pour toutes ces choses-là, parce que ça me fait du bien à moi, parce que ça fait du bien à mon prochain, mais aussi parce que je suis sûr que ça va m'apporter une bonne place et une vie heureuse après ma mort. Voilà. Inni vananto, hein, je savais, j'espérais, j'étais sûre que j'aurais ma rétribution. Fahuwa fi 'ayshatir radiya, il sera dans une vie heureuse. Qutufu fi jannatin 'aliya, qutufuha daniya, dans un paradis élevé, parce que les paradis sont des degrés de plus en plus élevés et de plus en plus beaux, donc un paradis élevé avec les grappes de ses fruits qui pendent, hein, et qui sont à ma portée. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, et alors celui qui réceptionnera son livre des actes avec sa main gauche, fayaqulu ya lamentation, tristesse, voilà. Regrets, mais les regrets ne serviront plus ce jour-là à rien du tout. Ya laytani lam uta kitabiya, ah si seulement je n'avais pas été là à ce moment pour recevoir ce livre. Wa lam adri ma hisabiya, si seulement je ne devais jamais savoir ce qui doit m'arriver. Ya laytaha kanatil qadiya, ah si seulement c'était la fin. Mais c'est fini, la fin elle est déjà passée, elle est derrière. Hein, les gens aujourd'hui ont peur de la mort parce que c'est la fin. Mais non, la mort n'est pas la fin. Et il viendra un jour où les gens espéreront avoir cette mort qui met fin au tourment. Mais c'est fini, elle n'existera plus. La mort salvatrice, la mort qui soulage de la peine, de la douleur et des tourments, non, c'est fini. Elle n'arrivera qu'une fois, la mort. Ya laytaha kanatil qadiya. Et alors, il va se rappeler, c'est là que hein, le film de sa vie va lui revenir en mémoire. Ma arna anni maliya. Mes biens ne m'ont servi à rien. Ils ne m'ont pas mis à l'abri de ce danger qui me guette aujourd'hui. Ma arna anni maliya. Halaka anni sultaniya. Le pouvoir que j'avais m'a été a joué beaucoup plus contre moi que pour moi. Hein? Et je n'ai plus de pouvoir aujourd'hui. J'avais un sultan, les gens qui ont du pouvoir sur la terre n'auront plus aucun pouvoir après leur mort. Le seul pouvoir sera détenu exclusivement par le maître des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Halaka anni sultaniya. Et après, donc, Dieu ordonnera khudhuhu farulluh. Donc prenez-le et enchaînez-le. Thumma al-jahima sallouh. Et précipitez-le dans l'enfer. Tout ceci se trouve donc dans le Coran. Alors bien sûr, Dieu étant juste, en même temps clément, hein, alors qu'il pourrait juger tout seul, Dieu sait tout. Le petit acte ou le grand acte, il l'a vu et il ne l'oublie pas. Nous faisons des choses et nous les oublions. Dieu n'oublie pas. Mais s'il fait inscrire par des anges ce que nous faisons, ce n'est pas pour lui, parce que lui n'oublie pas. C'est pour nous. Pourquoi? C'est pour que cela serve de témoignage en notre faveur ou en notre défaveur. Hein? Donc les anges scribes, al-kataba, hein, les anges scribes qui nous accompagnent en permanence sont là. Parce qu'ils seront nos témoins et ce qu'ils écriront servira comme témoignage. Alors qui Dieu appellera au témoignage? Alors qu'il peut être le seul témoin, il aurait pu déclarer que c'est lui qui décide. Mais par clémence, par amour pour l'homme et surtout pour montrer la justesse de son jugement, hein, qu'il ne peut léser personne de quoi que ce soit, même du poids d'un atome de bien ou du poids d'un atome de mal. Mithqala dharra, je rapporte les paroles de Dieu. Mithqala dharra, hein, c'est-à-dire l'infiniment petit. Même ça, Dieu l'a vu et il est inscrit. Donc il appellera au témoignage les anges, il appellera les prophètes. Hein, les prophètes défileront avec ceux qui se sont réclamés de leur message derrière eux. Hein. Il y a un hadith du prophète Al-Salem, qui raconte comment il verra des délégations comme ça, les premières avec 5 personnes, d'autres 10 personnes, d'autres. Ensuite, une nuée noire. Et il dira, est-ce que c'est ma communauté? Et on lui dira, non, pas encore, c'est la communauté de Jésus. Une nuée noire, est-ce que c'est ma communauté? Non, c'est la communauté de Moïse. Et il verra encore une nuée noire. Il dira, ceci est ta communauté. Et donc les anges, la terre aussi, la terre témoignera. Dit le Coran, ce jour-là, elle racontera son histoire, tout ce qui s'est passé à sa surface. Hein? Les compagnons ont demandé au prophète, qu'est-ce que ça veut dire akhbaraha? Le prophète a dit, atadrouna ma akhbaraha? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que les informations que régurgitera la terre? Et il leur expliquera. Fataqulu ya Rabb, laqad amila kada wa kada fi yawmi kada wa kada. Seigneur, dira la terre, il a fait ceci et cela, tel jour et tel autre jour. Donc, la terre est là et personne ne lui donne d'importance. Hein, mais tout ce qui se passe dessus, elle l'enregistre comme une clé USB. OK? Et elle régurgitera tout ça, des milliers, des milliards, des centaines de milliards d'informations et beaucoup plus encore. Et est-ce que l'homme aura droit à la parole ce jour-là? Non, parce que sa bouche sera scellée. Et qui parlera alors? Parce qu'on le fera témoigner, mais il ne parlera plus avec sa bouche comme il parle sur la terre. Ce sont les membres qui ont perpétré les crimes, les délits pour lesquels il sera puni, qui témoigneront. Voici comment on parle Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, surat Yassin. Aujourd'hui, vos bouches seront, nous scellerons leurs bouches, nous fermerons leurs bouches. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulhum bima kanu yaksibun. Et ce sont leurs mains et leurs pieds qui témoigneront, qui raconteront ce qu'ils faisaient. Et bien sûr, l'homme essayera de contester, parce que par moment, Dieu lui redonnera la parole. Et le hadith du prophète nous raconte qu'un jour, donc, il était avec ses compagnons et il s'est mis à rire. C'est un hadith du recueil de Muslim, rapporté par Anas radhiyallahu anhu, qui dit « Un jour, nous étions chez le messager de Dieu et nous l'avons vu rire. » Et il dit « Savez-vous pourquoi je ris ?» Ils disent « Allah et son prophète le savent mieux. » Et le prophète raconte, il dit « Je ris de la contestation de l'homme le jour du jugement qui dira « Je n'accepterai d'autres témoins que moi-même. » Il protestera l'homme. Mais sa bouche sera scellée et Dieu dira à ses membres « Parle !» Et il récite là le verset « Aliyah man artimu ala afwahihim » Aujourd'hui, les bouches seront scellées et ce sont leurs mains, leurs pieds, etc. qui avoueront leurs méfaits. Et alors, quand Dieu lui rend la parole de nouveau, il va s'en prendre à ses membres qui ont parlé. Et l'homme insultera sa propre main qui a volé. Et il lui dira, « وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ » Ils diront à leur peau, à leur « قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا » Pourquoi êtes-vous témoin contre nous? Vous nous appartenez, toi, ma main, tu es à moi, non? « لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا » قَالُوا Et ils répondront, ses membres, « قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ » Surat Fussilat. Donc, celui qui nous fait parler aujourd'hui, c'est pas toi. C'est celui qui fait parler toutes choses. Celui qui a fait parler Isa au berceau. Celui qui nous donne cette capacité de parler aujourd'hui, mais qui peut nous l'ôter et qui nous l'ôtera le jour du jugement. Allahumma afina, que nous ne soyons jamais, inshallah, parmi... là, nous sommes en train de parler du hisab difficile. Hein, que nous soyons parmi les gens qui seront jugés facilement. Parce que là, ce sont ceux qui contestent. Et c'est pour ça que Dieu leur opposera le témoignage de leurs membres, de leurs livres, des anges, de la terre, etc. Alors, la générosité divine, malgré ce comportement abject, ils sont devant le Seigneur des mondes et ils se permettent de mentir encore. Hein. Et donc, malgré cela, Dieu reste égal à lui-même, il reste amour, il reste tout miséricorde. Et son jugement est un jugement clément. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Il nous explique, sur la terre déjà, pour que nous soyons au courant, les clauses de son jugement. Une bonne action est comptée pour 10 au moins, tout de suite, d'emblée. Hein, alors qu'une mauvaise action ne compte que pour une mauvaise action. Il donne cette parabole dans le Coran de l'épi de blé. Quand tu plantes une graine, tu as des épis. Et chaque épi contient 100 graines. Donc voilà, c'est comme ça. Fais le bien. Et Dieu se charge de te le compter au centuple. Mais fais le bien, toi. Ne dis jamais ce n'est pas assez. Hein? Vous savez que le prophète Assassin nous encourage à faire même les plus petites actions. Les plus petites actions, parce que c'est à force de petites actions que l'on fabrique des montagnes de bonnes actions. Mais c'est aussi valable pour les mauvaises actions. Pour les mauvaises actions, il y a ce... Alors, je ne sais pas si c'est un hadith ou une sagesse, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je crois que c'est plutôt Salaf Salih, donc nos pieux prédécesseurs qui disent « La tahqiranna sirara a'malikum fa innal jibala min al-hasa » Ne négligez pas vos petites fautes, parce que les montagnes sont faites de petits cailloux. À force de faire des petites fautes, et ben, en s'accumulant, ça va faire une montagne. Alors attention, hein? Réformez-vous. Ne vous laissez pas aller aux mauvaises habitudes, parce que c'est difficile après de les déloger, hein, de notre comportement, les habitudes sur lesquelles que nous avons ancrées trop profondément. Donc générosité divine, encore, pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas juste le résultat, il regarde l'effort que tu fais. C'est encore même plus important que le résultat. Un jour, une amie donc, qui ne sait pas lire l'arabe me disait « Moi, mon rêve, c'est de pouvoir comprendre le Coran et vraiment le comprendre dans sa langue originelle. » Et je lui ai dit « Mais vas-y, apprends l'arabe doucement et même lis le Coran avec une traduction, mais lis de façon à comprendre. » Même si tu dois mettre 10 minutes à comprendre un seul verset, ou même plus. Elle m'a dit, oui, mais c'est pas possible. Je peux pas être aussi récompensée que celle qui lit 10 pages en 5 minutes. Hein? Je lui ai dit, mais détrompe-toi. C'est moi qui fais ce bruit-là?
Bah oui, comme d'habitude.
Et c'est là que je lui ai répété donc, ce que dit le prophète Asselab à propos de l'effort, de l'jod. Hein. Dieu récompense l'effort, pas le résultat. Et donc, si toi tu as plus de mal à lire ce Coran, tu es plus récompensé que celui qui le lit de façon aisée, c'est normal. Si tu peines plus pour faire quelque chose, c'est normal que ton effort soit mieux récompensé. Ce n'est que justice. Ce n'est que justice. Alors, une autre marque de l'indulgence divine, c'est que donc il récompense l'effort plus que le résultat, mais il ne regarde pas l'acte dans son apparence. Il regarde l'intention. Hein, il juge l'intention qui motive l'acte. On peut pécher sans en avoir envie. Et ça peut être très mal pris par les gens qui vont se fâcher après nous et qui vont nous rejeter. Alors que Dieu sait très bien que je n'ai pas voulu vexer la personne ou que je ne voulais pas en arriver là. Bien, il est indulgent, il ne compte pas une faute quand elle n'est pas pensée d'avance, préméditée comme étant une faute. Indulgence divine. Les hommes ne jugent pas comme ça. C'est pour ça que Ali ibn Abi Talib, quand il disait « Wallahi, je jure que si on me donnait le choix entre Dieu et mes parents pour me juger, je préférerais Dieu. Parce que même mes propres parents ne me jugeraient pas de façon aussi clémente et miséricordieuse que Dieu le fait. Alors, je parlais des petites actions. Il y a ça aussi. Il faut faire le bien sans négliger même les gestes les plus simples. Que dit le prophète Hassan? Il dit que sourire à quelqu'un, sourire à ton frère, est considéré comme une aumône. Comme une aumône. Donc, les voies du bien sont multiples. Il y a ce hadith du prophète Hassan où les gens, les pauvres, sont venus se plaindre à lui en lui disant « Zahaba ahlo » les gens qui ont beaucoup de vêtements à l'époque du prophète, plus on était riche et plus on superposait les tuniques, les vêtements. Hein. « Zahaba ahlo dosori bil ujur » c'est-à-dire les gens qui ont beaucoup de djellaba, de vêtements, ont pris toutes les bonnes actions. Et nous, on n'a pas de quoi faire des aumônes comme eux, etc. Et c'est là que le prophète leur a dit « Détrompez-vous hein? ». Et il dit, le fait de dire « Subhanallah, Alhamdulillah », des simples formules pèsent dans la balance des bonnes actions peut-être beaucoup plus que l'aumône d'un riche. Hein? Sourire au visage, accueillir son frère avec un visage avenant, c'est considéré comme une aumône. Et il y a même un hadith qui raconte, donc c'est une espèce de parabole, qu'un dirham a devancé, a battu un dinar, un dirham, non, un dinar, je ne sais plus. C'est-à-dire, un sou en a battu 100, a devancé 100 sous. Et on lui a dit, mais comment, ya Rasulallah? Il dit, parce qu'un homme a donné en aumône 100 pièces, bon, c'est bien. Mais un autre qui n'en possédait que deux, en a donné qu'une. Qui c'est qui est le plus récompensé? Quel est l'acte le plus valeureux? Celui qui a donné la moitié de sa fortune, une pièce sur deux? Ou celui qui a donné 100 pièces sur des millions? Voilà. Donc, et Dieu sait tout ça. Il sait évaluer les choses avec une extrême sagesse. Alors autre chose, Dieu regarde la régularité des bonnes actions. Hein? Nous sommes encouragés par le prophète Salam à faire le bien, faire des actes louables, des actes méritoires, des actes de bien qui resserrent les liens sociaux, hein, qui nous font du bien en même temps à nous-mêmes, mais de façon régulière. De façon régulière. Parce que c'est la régularité qui fait qu'on ne peut plus s'en passer. C'est comme la prière, s'il y a une obligation de répétition, c'est parce que Dieu veut que ça devienne une habitude. Il ne veut pas que nous l'oublions, parce que c'est grave quand nous oublions Dieu. Et donc pour nous prémunir de l'oubli, il nous fait répéter. Et tous les ans, tu jeûnes un mois. Et tous les jours, tu pries 5 fois par jour. Etc. Il y a des... Et le hajj, répétition. Hein, il y a des temps forts comme ça dans la semaine et tous les vendredis hein, dans le mois, dans le l'ayamul bayd, le jeûne des trois mois de pleine lune, les jeûnes du lundi et du jeudi. Donc c'est répétitif parce que Dieu veut ancrer des habitudes, des réflexes. Voilà, et donc la régularité, c'est pas un hadith qui disait, je sais plus si c'est un hadith ou une salade, khayrul umuri, khayrul umuri, adwamuha wa inqal. Non, khayrul umuri, non, adwam, khayrul a'mali ou l'umuri, khayrul mada? Khayrul a'mali, voilà, la meilleure action, khayrul a'mali. La meilleure action, c'est la plus régulière, même si elle est infime, cette action. Même si pour vous, elle est... c'est pas grand-chose. Vous savez, il y a une sœur, fillah, une sœur de foi, dont je n'oublierai jamais le bien qu'elle m'a fait. Quand j'ai accouché de mes jumelles, et donc j'étais débordée, je faisais rien d'autre que pouponner. Hein, je ne pouvais pas faire les repas pour le restant de ma famille, je ne pouvais pas nettoyer ma maison. Et cette sœur, tous les jours, c'était le ramadan, tous les jours, m'apportait ma shorba, ma soupe. Tous les jours. Elle l'a fait pendant plus de 30 jours. Elle a fait ça. Donc regardez, cette régularité m'émerveille encore plus que le fait qu'elle m'ait apporté ça. Elle a tenu bon, je ne sais pas, elle se serait peut-être lassée au bout d'une semaine ou de 10 jours, ou d'autres auraient pu le faire à sa place. Hein, elle aurait pu déléguer cette responsabilité, je n'ai rien demandé. Ce n'est pas une responsabilité, c'est une gentillesse. Elle a tenu à le faire elle-même, voilà, pendant peut-être 40 ou 2 mois, 40 jours. Ou... Voilà, alors, c'est encore des choses importantes. Voilà, rapidement peut-être, hein, parce que sinon j'aurai trop de choses à rattraper le mois prochain. Après cette étape du jugement, il y a donc les balances, des balances absolument fiables, qui n'oublient rien et qui comptent les bonnes actions. Donc après le jugement quantitatif des actions, l'exposé qu'il y a eu durant le jugement, la lecture des livres, c'est un jugement quantitatif, on décompte les bonnes actions et les mauvaises. Là, c'est un jugement qualitatif. Pourquoi ? Parce que Dieu, non seulement il va dire là, il y a une bonne action, mais il va peser sa valeur. Parce que peut-être que cette bonne action va t'effacer toutes tes mauvaises actions. Vous me suivez ? Une bonne action peut être tellement valeureuse, tellement importante au regard de Dieu, elle a fait tellement de bien autour de toi qu'elle en vaut mille. Et donc, elle va t'effacer mille fautes que tu as fait ou plus. C'est pour ça qu'il y a cette pesée. Donc, c'est un jugement qualitatif, un jugement de la valeur. Et aujourd'hui, on ne sait plus compter en fonction de cette notion, juger en fonction de cette notion. On compte le nombre. Oui, il y a beaucoup, il y a peu. Mais quelle est sa qualité ? Ça, on oublie d'y penser, alors que c'est extrêmement important. Donc elle a une capacité illimitée, cette balance-là, ces balances-là. On a dit, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Donc nous poserons, nous déposerons ces balances absolument fiables le jour du jugement. Et un hadith du prophète dit, c'est un hadith dans Sahih Muslim qui est rapporté par Salman al-Farisi qui dit, فَلَوُزِنَ فِيهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. Et si les cieux et la terre étaient pesés dans cette balance, elle les pèserait. C'est une balance aux possibilités infinies. Donc, que Dieu dit en parlant de ces balances, celui qui aura une balance chargée de bonnes actions, il aura une vie heureuse. Et celui qui aura des balances trop légères sera le combustible de l'enfer. Mais cette balance ne pèse pas seulement les actes, elle pèse aussi les créatures, les hommes. Il y a un hadith qui dit « يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الثَّمِينِ الْعَظِيمِ. On apportera un grand de ce monde. » Un roi, ou je ne sais trop qui, valeureux et grand, et on le pèsera. Hein, on le pèsera. فَمَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. Et il ne pèsera pas, au regard de Dieu, l'équivalent de l'aile d'un moustique, ce jour-là. Hein. Donc ceux qui s'enflent d'orgueil aujourd'hui, qui vivent dans des palais avec une garde armée jusqu'aux dents et qui se prennent pour le nombril de la terre, voilà ce qu'ils vaudront s'ils n'ont pas été reconnaissants envers Allah Azza wa Jal et s'ils n'ont pas aimé leur prochain. Et donc, il renvoie, le prophète Allah Azza wa Jal renvoie dans ce hadith à un verset du Coran qui dit « فَلَا نَجْعَلُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا » et le jour où nous les jugerons, nous ne leur donnerons aucune valeur. Et il y aura même la pesée de cartes. Dans un hadith, on parle, ce hadith qui s'appelle Hadith al-Bitaqa, la pesée d'une carte, mais d'une carte justement qui va sauver, une carte salutaire. On raconte donc, hadith dit que le jour du jugement, on déroulera les feuillets, le livre, les feuillets de quelqu'un qui a fait beaucoup de mal devant toutes les créatures, donc un jugement public de quelqu'un de mauvais. Et Dieu lui demandera, est-ce que tu contestes quoi que ce soit? Voilà, il sait très bien qu'il est mauvais, mais il demande quand même. Hein, tu contestes quoi que ce soit? Il dit, là, ya Rab, non Seigneur. Il dira Adalamaka katabatuka al-hafidhun alaka uzrun aw hasanatan wahida aw hasanatun wahida, est-ce que tu as une excuse ou peut-être une seule bonne action qu'on ne t'aurait pas compté? Allah sait qu'on n'oublie pas, que tout est absolument fiable dans l'au-delà, mais il lui demande, il dit non, il reconnaît que non. Et à ce moment-là, Dieu lui dira, tu as une carte auprès de moi. Et là, la carte chutera sur la balance et elle fera basculer toutes les mauvaises actions. Ça veut dire que le poids de la carte aura pesé plus que le mauvais côté. Et sur cette carte est écrit, « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah ». Sur cette carte, il y a la profession de foi. C'est-à-dire que celui qui croit, mais qui... Alors, il y a dire et croire. Hein, il y a les gens qui disent avec leur bouche « La ilaha illallah » et les gens qui le vivent, qui n'ont pas une seule pensée qui soit détachée de ce sentiment, hein, de Dieu tout-puissant, unique, et que Mohammed et ceux qui l'ont précédé ont été effectivement ses messagers, etc. Et donc cette carte le sauvera. Fanazalat, la balance a penché du côté de cette carte. Alors dans le Coran, on nous parle d'un côté mystérieux de ce jugement qui est Ahlul A'raf. Les gens des limbes sont des gens qui seront à la frontière entre le paradis et l'enfer. Ils seront ni dans l'un ni dans l'autre, parce que leur jugement, leur pesée aura décrété qu'ils seront à égalité dans le bien qu'ils auront fait et dans le mal qu'ils auront fait. Et ces gens-là passeront leur temps à regretter jusqu'à ce que d'autres intercèdent pour eux pour entrer au paradis ou pour aller en enfer. Hein, le jugement n'est pas fini. Il y a le témoignage des gens, il y a le témoignage des prophètes, il y a et donc ces gens des limbes, dans le Coran, on voit qu'ils voient les gens du paradis, ils les saluent, salam, par le salut de l'islam, et ils voient les gens de l'enfer se tourmenter dans le châtiment, et ils demandent à Dieu de les en protéger. قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Seigneur, ne fais pas qu'on soit avec les injustes. Donc quand le compte est serré comme ça, c'est là qu'on se dit, une seule bonne action peut faire gagner le paradis, mais une seule mauvaise action peut faire précipiter en enfer. Et c'est pour ça que le prophète dit, « Inna al-abd la yatakallamu bi kalimati min ridwanillah » L'homme peut prononcer une parole qui plaît à Dieu, un mot qui plaît à Dieu, « yarfa'uhu » et Dieu l'élève. L'élève au paradis grâce à cette parole proférée. Et au contraire, qui attire la colère de Dieu et qui le précipite en enfer. Et notre hadith qui dit attention, ne négligez pas même les petites bonnes actions. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Al-ma'ruf, ça c'est le ma'ruf. Ce n'est pas seulement le bien. Le bien c'est le hasana, ou le khayr de façon générale. Là il dit min al-ma'ruf. Al-ma'ruf ça veut dire le bien reconnu communément comme tel. Ça veut dire le bien qui est reconnu partout, le bien universel. Sal ma'ruf. Donc quand on parle de bien et de mal dans le Coran, ce ne sont pas que des normes propres à ceux qui ont cru au dernier volet de l'islam apporté par Mohammed. Non, le bien et le mal dans l'esprit coranique, c'est le bien que tout le monde reconnaît en tant que tel et que le mal que tout le monde reconnaît en tant que tel, sauf ceux dont les cœurs sont voilés. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. On ne sait plus reconnaître la vraie valeur des choses. Hein? Les gens, quelquefois, sont tellement égarés, on s'égare facilement et on peut ne plus reconnaître, ne plus discerner le bien du mal. Et c'est quand on perd ce discernement, voilà, qu'on est en grand danger. Et les musulmans, justement, qui font des actes innommables au nom de l'islam, ont perdu ce discernement. Ils croient qu'ils font le bien alors qu'ils font du mal. Allahumma afina, que Dieu nous laisse notre furqan, qu'il nous laisse ce discernement-là. Je fais le hadith, ne négligez aucun bien universel reconnu comme tel. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq, pas même le fait de, voilà, d'être agréable aux gens, d'accueillir ton frère, de rencontrer, pas accueillir, de rencontrer ton frère avec un visage avenant. Donc il est extrêmement important d'être agréable aux autres. L'islam est une religion qui exige de nous qu'on soit sympathique, mais pas hypocritement. Qu'on soit vraiment sympathique. Et alors, comment est-ce qu'on peut être sympathique si on ne dit pas bonjour, si on fait peur par sa tenue vestimentaire? Alors, je m'explique. Il y a des normes de Dieu, mais il y a aussi les normes humaines. Et on peut concilier les deux. Suivez-moi bien. D'accord? Dieu n'indique pas de tenue vestimentaire particulière, mais il appelle à une pudeur du cœur. Ok? Donc, cette pudeur consiste à voiler les parties qu'il considère comme étant intimes, qu'il considère comme étant réservées au domaine privé, aux proches, à la famille. Mais dehors, dans la rue, Dieu exige de nous donc qu'on évolue avec décence, en cachant les parties intimes notamment. Ou ce qui peut attirer l'attention et détourner un homme de sa femme ou une femme de son mari, etc. La norme de décence, elle est faite pour la paix des ménages. Elle est faite pour la paix des ménages et la paix sociale. Il n'y a pas d'autre but que celui-là. Hein. Mais le vêtement doit être beau. On doit être agréable à son prochain. Regardez ce que nous dit le hadith. Tu dois être agréable à ton prochain. Et on lui est agréable par son visage, mais aussi par tout notre aspect extérieur, toute notre apparence. Et donc, attirer la suspicion n'est pas bon dans l'esprit de l'islam. On doit inspirer confiance. On doit inspirer confiance. On ne doit pas faire peur en s'habillant d'une certaine manière. Voilà. Donc je peux concilier la mode et le décret divin. Je peux cacher les parties qu'il me demande de cacher tout en m'habillant comme tout le monde. Voilà. Alors je m'arrêterai là. Wa ila al-hadith la yaqul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum barakallahu fikum.